VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. 175 Maliens expulsés du Gabon sont arrivés à Bamako au Mali ce mardi. Selon leur premier témoignage, certains d'entre eux étaient en prison où ils disent avoir été maltraités par les autorités gabonaises. Il leur a fallu 2 semaines de route pour arriver dans la capitale malienne. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les 175 Maliens expulsés du Gabon sont revenus les mains vides. Ils sont partis de Libreville à Bamako, en passant par Calabar au Nigeria, Cotonou au Bénin et Ouagadougou au Burkina Faso. Le problème principal semble être la non-détention de la carte de séjour.
Je m'appelle Keita Mohamed Sekou. Pour la carte de séjour, je crois saisir, c'est dans les 800 000 comme ça.
820 000.
Non, pas les moyens pour prendre ça. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui dire d'enlever la chemise et la ceinture, les chaussures. Comme déjà, il est pris comme prisonnier. On les maltraite. Il voit 4 personnes sur un lit d'une place. Ce n'était pas dans de bonnes conditions.
Parmi les 175 Maliens expulsés, tous n'ont pas le même problème, comme nous l'explique Bala Bagayogo, qui a passé un an en détention.
De un, d'abord, moi, je suis né au Gabon. J'ai grandi au Gabon. J'ai passé toute mon existence au Gabon. Je suis parmi eux parce que j'avais les papiers gabonais. On m'a arrêté, soi-disant que c'est faux usage de faux. On me donne un mandat de dépôt sous le dos. J'ai ma famille là-bas, mon père au Gabon, ma mère au Gabon, mes petits là-bas.
Dès leur arrivée, des dispositions ont été prises par la protection civile afin de faciliter leur prise en charge. Comme ces 175 Maliens refoulés de Libreville, d'autres Maliens sont encore dans les prisons gabonaises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Tchad maintenant avec un profil de la diplomatie tchadienne, usage et mode d'emploi. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki, a expliqué dans une sortie face à la presse les défis et perspectives auxquels son pays fait face sur le plan régional et au-delà. Plus de détails avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Au cours de cette conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine Moussa Faki Mahamat informe que le Tchad a joué un rôle diplomatique et militaire très déterminant dans les crises qui secouent l'Afrique et le monde entier. C'est ce qui a permis, dit-il, au Tchad de disposer de 25 ambassades ayant des juridictions sur une centaine de pays et 8 consulats. De même, la dynamique impulsée à la diplomatie a permis au Tchad d'accueillir sur son sol 23 ambassades étrangères et 10 d'organisations internationales et sous-régionales. Il rappelle que le mandat du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2014-2015 a été marqué du fait des initiatives qu'il a prises comme l'adoption de la résolution mettant en exergue la corrélation entre le terrorisme et la criminalité transnationale. Moussa Faki Mahamat déplore que la configuration actuelle de l'ONU ne reflète pas les relations internationales.
Vous traitez des problèmes de quelqu'un, vous décidez à sa place. Alors que nous faisons 1 milliard d'habitants, il nous faut au moins 1 ou 2 postes comme membre permanent du Conseil de sécurité pour porter nous-mêmes nos problèmes et pouvoir amener notre concours à la gouvernance internationale.
Faisant le bilan de la guerre contre le terrorisme, Moussa Faki Mahamat a déclaré que le Tchad a consenti d'énormes sacrifices pour ramener la paix dans la sous-région. Cependant, il adopte la langue de bois quant au bilan financier.
Nous avons perdu pas moins de 100 tonnes entre nos interventions au Niger, au Cameroun et au Nigeria. C'est une opération qui nous a coûté des hommes, elle nous a coûté du matériel, elle nous a coûté de l'argent, mais nous avions, de concert avec les troupes de ces pays, stoppé l'offensive de Boko Haram avec son armada et ses milliers d'hommes. Ce qui l'a obligé à changer de méthode. Elle est plutôt dans la guerre asymétrique, notamment les opérations kamikazes. Et ça demande de revoir l'ensemble de la stratégie et arriver progressivement à éradiquer Boko Haram.
Le chef de la diplomatie tchadienne fustige par ailleurs le comportement et la lenteur de la communauté internationale qui, selon lui, n'a pas encore pris conscience de la nécessité de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. André Kodmajingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Et puis cette dernière nouvelle de dernière minute de Côte d'Ivoire, démission du Premier ministre Daniel Kablan d'un camp et de son gouvernement. Le gouvernement a donc présenté sa démission au président Alassane Ouattara. Nous aurons plus de détails sur cette nouvelle dans les prochains bulletins. Compte de l'Afrique, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a dénoncé mardi un accroissement de la répression contre l'opposition à Djibouti. Elle réclame une commission d'enquête pour éclaircir les circonstances de ce qu'elle appelle le massacre du 21 décembre qui a fait, selon elle, 27 morts. On écoute Florent Gel, le responsable du bureau Afrique de la FIDH.
Le président Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête de l'État depuis 16 ans, veut un quatrième mandat et veut passer en force. Et le dialogue politique qui avait été noué avec un accord cadre le 30 décembre 2014 est aujourd'hui lettre morte. Et le pouvoir veut réprimer son opposition pour être seul en lice pour l'élection présidentielle. On demande un processus électoral crédible, pluraliste et transparent qui permettent aux partis de la majorité présidentielle et aux partis de l'opposition de concourir dans les mêmes règles et que chacun ait la possibilité de gagner. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Djibouti dans les élections précédentes.
Florent Gel, responsable du bureau Afrique de la FIDH.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le dialogue inter-burundais dans l'impasse, les pourparlers visant à dénouer la grave crise que traverse le Burundi ne reprendront pas à Arusha en Tanzanie aujourd'hui comme prévu. Le gouvernement du président Pierre Nkurunziza affirme que la date du 6 janvier n'a pas été consensuelle et que par conséquent, il ne sera pas représenté à Arusha. On écoute Jean Kouabeko, proche du CNDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
L'organisation n'est pas bonne, n'est pas claire. Il n'y a pas de date fixe pour entamer le dialogue à Arusha. Il n'y a pas de préparation. Même la logistique n'a pas été organisée. C'est pourquoi toutes les parties prenantes au dialogue ne vont pas participer. Même le facilitateur, son Excellence Yoweri Museveni, ne va pas se rendre à Arusha. Parce que lui-même sait que la date n'a pas été consensuelle.
Pour sa part, l'opposition a indiqué que les discussions ne pouvaient pas concrètement reprendre ce mercredi, disant n'avoir aucune information sur une nouvelle date. Tassien Siromona du parti Ruprona affirme ne pas être surpris par le retrait du gouvernement.
On avait déjà senti la chose venir. Maintenant que c'est officiel, nous déplorons bien sûr la démarche du gouvernement de facto de Bujumbura, qui ne nous surprend pas d'ailleurs, parce qu'il n'a nullement pas affiché la volonté de négocier. Seulement, nous lançons un appel vibrant à la médiation, parce que maintenant, il ne faut pas que la médiation se comporte comme si elle doit programmer les dates sur injonction du gouvernement, parce que le gouvernement est une des parties en conflit. D'ailleurs, c'est la cause de tous les maux qui s'écoulent au Burundi. Donc la médiation doit prendre la chose au sérieux et considérer que tout jour qui passe est un jour de plus de malheur pour les Burundais, et parce que les gens continuent à mourir, les gens continuent à être enlevés, les gens continuent à être torturés, à être emprisonnés sans aucune raison valable.
Tassien Siromona du parti Uprona au Burundi. En RCA, les réactions se multiplient au lendemain de la contestation des résultats provisoires des élections groupées du 30 décembre par une vingtaine de candidats à la présidentielle. Parlement et gouvernement de transition appellent les contestataires au respect des voies officielles de recours. Par ailleurs, l'ANE, l'Autorité nationale des élections, poursuit la publication des résultats provisoires de la présidentielle. On écoute notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Au cours d'une conférence de presse ce mardi à Bangui, le ministre de l'administration du territoire, Modibo Bachir Walidou, a indiqué qu'il est inadmissible de remettre en cause les résultats de ces scrutins, jugés crédibles par tous les observateurs nationaux et internationaux. Il reproche aux candidats le fait de ne pas envoyer leurs représentants assister aux étapes des élections depuis les bureaux de vote jusqu'à la Cour constitutionnelle de transition, en passant par l'Autorité nationale des élections. Au cours d'une entrevue dans la matinée avec une partie des candidats contestataires et deux des favoris, le président du Parlement provisoire, Alexandre Ferdinand Guindy, a demandé aux différentes parties prenantes d'éviter de perturber le processus en cours, mais de porter leur requête devant la Cour constitutionnelle de transition. Entre-temps, l'Autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats partiels et provisoires. Ce mardi soir, 53% des résultats globaux ont été rendus publics. Anissé Georges Doleguilé prend le dessus avec 179 230 voix contre 178 483 voix obtenues par Faustin Archange Touadéra à la tête il y a encore quelques heures. Progression également de Martin Ziguele qui réoccupe la quatrième place avec 70 883 voix derrière Désiré Bilal Zanga Kolimba, troisième avec 76 109 voix. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence à New York à propos de l'annonce par Pyongyang d'un nouvel essai nucléaire nord-coréen. C'est ce que déclarent des diplomates. La réunion a été demandée par les États-Unis et le Japon et elle prendra la forme de consultations à huis clos entre les 15 pays membres, a précisé à l'AFP la porte-parole de la mission américaine auprès de l'ONU, Agar Chemali. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.